Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot.
Bienvenue donc dans Soft Power, le magazine des industries créatives de France Culture en direct jusqu'à 20h. Alors nous allons consacrer donc la plus grande partie de cette émission ce soir à la creative writing, c'est-à-dire pour le dire en français, à ces formations, ces cours, ces enseignements qui permettent d'apprendre à écrire, notamment pour les grands reporters et surtout pour les écrivains. Il existe en effet aux États-Unis des dizaines, voire des centaines de formations en creative writing. Dans les premiers cycles de l'université, on peut prendre la creative writing comme une option et par la suite lui consacrer tout un cursus au niveau du master sous le nom générique de MFA ou de Master of Fine Arts. Ces formations sont-elles utiles? C'est à voir. Sont-elles onéreuses? Oui. Le plus souvent, sont-elles indispensables? C'est le débat. Débat que nous ouvrons ce soir avec Alissa Rubin. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, vous avez été longtemps en Afghanistan et en Irak pour le New York Times et vous êtes aujourd'hui la chef du bureau du New York Times à Paris. Et vous venez tout juste de recevoir le prix Pulitzer le mois dernier, la plus haute distinction journalistique américaine. Le Pulitzer vous a été attribué notamment pour une série de reportages sur les femmes afghanes. Bravo.
C'est vrai, absolument. Et c'est un exercice dans la forme de longueur pour expliquer tout ce du monde afghan. Et en course de fer, j'ai appris trois leçons, je pense. Le premier, pour moi, c'était on doit connaître toutes les choses possibles au sujet, pas seulement les choses exactement sur le point. Par exemple, j'ai fait un article au sujet des femmes policières. Et pour ça, j'ai passé beaucoup de temps, oui, avec les femmes policières, mais aussi avec sa famille, avec les professeurs des femmes, et aussi avec les chefs des femmes qui, et plusieurs, n'aiment pas d'avoir les femmes.
Série d'articles sur les femmes, notamment policières afghanes, sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette émission. À vos côtés, Laure Limongi, elle est écrivaine, professeure de création littéraire. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous serez avec nous tout au long de cette émission et nous serons aussi par téléphone avec Lionel Ruffel, écrivain qui co-dirige le master de création littéraire de l'université Paris 8. Et puis nous étions à New York pour préparer cette émission et vous entendrez au cours de ce programme Henry Finder, le rédacteur en chef du New Yorker, Tina Brown, l'ancienne patronne de Vanity Fair puis du New Yorker, ainsi que deux éditeurs, Jonathan Karp et Michael Denny, autant d'acteurs, de personnes qui participent ou discutent de ces creative writing, c'est que personnes que nous avons interviewées à New York tout récemment. Toujours au sommaire de cette émission et dans l'actualité, nous parlerons dans un instant de Hamilton, la comédie musicale de Broadway qui fait un tabac. Elle est nominée 16 fois pour les Tony Awards, les Oscars du théâtre qui sont décernés cette nuit aux États-Unis. En direct, ce sera en direct sur CBS et mon confrère de France Musique, Laurent Vallière, sera avec nous pour évoquer Hamilton. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Et puis nous suivrons tout au long de cette émission, je l'ai dit tout à l'heure, la terrible attaque qui a eu lieu cette nuit dans un club gay de Orlando en Floride. Plus de 50 personnes ont été assassinées. Barack Obama et le président François Hollande ont réagi. Le premier ministre aussi vient de tweeter tout à l'heure. Compassion et solidarité avec le peuple américain en frappant la communauté gay. L'attaque effroyable d'Orlando nous atteint tous. On écoutera également ce soir Ellie Fitzgerald, un morceau de rap à la Maison Blanche. Et puis on parlera de la Beat Generation, tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h. À suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow. When I am not going to wait my shot, I am not going to wait my shot. And you will just like my country, I'm not scrappy and hungry. And I'm not going to wait my shot. We gonna rise up, time to take a shot. We gonna rise up, time to take a shot. We gonna rise up, rise up, it's time to take a shot. Rise up. entendait à l'instant un extrait de la bande originale et un extrait du spectacle Hamilton à Broadway. Et l'actualité pour commencer cette émission, c'est ce spectacle Hamilton avec vous, Laurent Vallière, notre confrère de France Musique, pour évoquer ce musical qui est un véritable phénomène aux États-Unis. Dans l'actualité, c'est une pièce qui a commencé à l'origine au théâtre Public Theater, donc dans ce qu'on appelle Off-Broadway à New York avant d'être transféré à Broadway. C'est un homme, Lin-Manuel Miranda, qui est à la fois l'auteur, l'acteur, le compositeur, qui a obtenu déjà le Pulitzer Prize. La musique a obtenu un Grammy Award. Et ce soir, elle est nominée pour 16 Tony Awards dans une cérémonie qui aura lieu cette nuit en direct sur CBS. Comment on explique le succès de cette pièce que vous avez vue à Broadway ?
Il y a différentes raisons. D'abord, il y a le fait que c'est quand même complètement hystérique ce qui se passe actuellement avec cette comédie musicale.
Hystérique et historique.
Hystérique et historique. Lin-Manuel Miranda, vous avez dit, a écrit, enfin, est l'auteur de tout. Il joue chaque soir depuis un an et il a annoncé qu'il arrêtera de jouer le rôle principal d'Hamilton, on l'entendait à l'instant dans ce rôle principal, le 9 juillet. Eh bien, à ce jour, les places au marché noir pour cette date-là, parce que les gens veulent le voir dans le rôle d'Hamilton, veulent voir la première troupe d'Hamilton, se vendent jusqu'à $8,000. C'est complètement débile. Cette semaine, les producteurs de Hamilton ont relevé le prix des places, le prix officiel des places. Depuis à peu près 3 ou 4 mois, au marché noir, les producteurs se rendaient compte qu'en fait, ils perdaient pas mal d'argent, puisque les places étaient au maximum de $200, et qu'au marché noir, on pouvait les revendre à peu près $3,000. Donc cette semaine, et c'est la première fois que je crois que ça arrive à Broadway, officiellement, il y aura chaque soir 200 places, 200 très belles places, qui seront vendues au prix de $849. Alors la dernière fois qu'on avait augmenté à ce point-là le prix des places, c'était pour The Book of Mormon, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, et les places étaient à peu près à $500.
Il y avait eu ça aussi avec le Roi Lion, etc. Mais au-delà du prix des places qui est significatif et qui a d'ailleurs été dopé par ce qu'on appelle les ticket bots, c'est-à-dire ces robots qui ont acheté des places par milliers et qui les revendent sur des sites comme StubHub ou Vivid Seats à des prix du coup hors marché finalement. Revenons peut-être pour commencer sur les raisons du succès en termes du contenu. Cette pièce, elle parle de quoi d'abord ? Elle parle d'un président américain, Hamilton, et elle est autour de la question des races.
Elle est autour aussi, je crois qu'on peut dire ça, de la fondation des États-Unis. J'ai rencontré le directeur musical, il s'appelle Alex Lacamoire, il est chaque soir dans la fosse d'orchestre, il est à l'origine de la comédie musicale et il y a 5 ans, il était à la Maison Blanche avec Barack Obama et Lin-Manuel Miranda pour présenter lors d'une soirée de poésie, de musique poétique à la Maison Blanche, une première version de cette histoire musicale en chansons et en paroles sur un des fondateurs de l'Amérique, donc Alexander Hamilton. Et pour lui, en fait, ce qui est historique avec Hamilton, c'est que c'est la première comédie musicale qui utilise une musique que tout le monde écoute à la radio. C'est-à-dire que vous vous rappelez Broadway dans les années 30, c'était une fabrique à tubes, Gershwin, Cole Porter. Bernstein, c'était des chansons qu'on écoutait à la radio. Et puis depuis quelques temps, quand même, Broadway avait un petit peu vieilli. Dès qu'on écoutait un peu des musiques à la Broadway, à la Gershwin, on disait « mais c'est complètement vieux jeu ». Eux, ils ont décidé d'utiliser des musiques à la Beyoncé, à la Destiny Child, du hip-hop. Et du coup, ces chansons parlent à tout le monde.
Alors je vous propose de l'écouter justement, Alex Lacamoire, que vous avez précisément interviewé à New York.
Ce qui rend le spectacle unique, ce sont plusieurs choses. Premièrement, il fait entrer le hip-hop dans le théâtre et il utilise le hip-hop d'une manière vraiment très fluide. Or, c'est très rare de voir du hip-hop à Broadway, et le fait que là, ça rencontre un tel succès est vraiment incroyable. Ça, c'est grâce au formidable auteur de la pièce, Lin-Manuel Miranda, qui a écrit tous les textes et a composé la musique de la pièce. Deuxièmement, l'histoire est racontée par des acteurs d'origine diverse. C'est l'histoire de la fondation des États-Unis, qui habituellement est racontée et incarnée par des Blancs. Mais cette fois, on a un George George Washington qui est afro-américain, une Lisa Washington, la femme de George Washington d'origine asiatique. C'est un acteur d'origine portoricaine qui joue le rôle d'Alexander Hamilton. Ce qu'on a voulu faire, c'est raconter l'histoire des États-Unis de l'époque en l'ancrant dans le monde d'aujourd'hui, comme si nous étions dans les États-Unis d'aujourd'hui. Cela rend l'histoire accessible. Et c'est merveilleux de voir que des gens issus d'origines ethniques différentes voient le spectacle et se sentent américains grâce à ce spectacle. Ils ont l'impression de faire partie de quelque chose, ils se sentent inclus et ça, c'est formidable. Lorsque le théâtre fait cela, on se sent représenté, on se sent fier et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Hamilton rencontre un tel écho.
À l'instant, Alex Lacamoire, que vous avez interviewé, Laurent Vallière à New York, il décrit déjà, il annonce, il explique une partie du succès finalement de cette comédie musicale, à savoir la question de la diversité.
Oui, voilà, c'était un choix. Alors, pour vous le décrire objectivement, Hamilton, moi, quand j'ai été le voir, je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire. C'est une comédie musicale qui utilise tous les codes de la comédie musicale. Vous avez la première chanson qui introduit le premier personnage, c'est celle qu'on a entendue tout à l'heure qui s'appelle My Shot et qui explique qui est Alexander Hamilton. Chaque personnage, en fait, a une sorte de style musical. Et ce qui est très drôle, c'est que le seul acteur blanc, c'est pour le roi d'Angleterre. C'est-à-dire, autant vous avez... En fait, cette comédie musicale, les jeunes peuvent y adhérer parce qu'en fait, ça raconte très bien l'histoire des États-Unis. Et ça rend complètement vieillot le vieux continent, puisque lorsque le roi d'Angleterre arrive, il arrive donc, c'est le seul acteur blanc, il arrive avec sa robe de bure, il dit des monstruosités, il faut tous les tuer à propos des indépendantistes, il parle de ces sujets de façon avec bienveillance, mais surtout, quand il chante un peu comme les Beatles, vous voyez. Donc, alors que Hamilton, lui, chante comme du hip-hop. Et donc, on se moque complètement les jeunes se réaccaparent l'histoire de leur pays grâce à cette comédie musicale.
En l'occurrence d'Alexander Hamilton, donc président américain. Est-ce que ça signifie que Broadway est aussi en train de changer, notamment sur la question noire?
C'est clair.
Et au-delà asiatique, latino, puisqu'il y a des personnages qui appartiennent à plusieurs minorités.
J'ai rencontré une autre metteuse en scène à Broadway qui s'appelle Diane Paulus, qui a eu aussi des Tony Awards, qui fait des choses très merveilleuses. Elle m'a dit clairement, aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer, il n'est plus possible aujourd'hui d'imaginer des pièces de théâtre où tout le monde est blanc. Parce que ce n'est pas la société dans laquelle nous vivons. On ne se reconnaît pas là-dedans. Et par exemple, il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu Les Misérables est à l'affiche depuis une vingtaine d'années à Broadway. Eh bien, l'un des acteurs, je ne sais plus si c'est Javert ou Jean Valjean, était noir. Et effectivement,
c'est pas la même chose, mais
oui, c'est pas la même chose. Je pourrais pas vous le dire lequel était, mais en tout cas, voilà. Oui, c'est clair que ça ouvre complètement la perspective pour les producteurs. Et l'un des acteurs principaux de Hamilton s'appelle David Diggs. C'est un rappeur. C'est lui, il est noir, afro-américain. Il a tourné en France, il a fait du hip-hop en France. Et c'est lui qui interprète le général Lafayette, le général blanc Lafayette français, sur scène à Broadway. Et il m'a dit un truc que j'ai trouvé assez formidable. Il a dit, vous savez, à Broadway, ce qui est formidable, c'est que c'est l'argent qui compte. Si les producteurs se rendent compte qu'on peut faire de l'argent avec ça, il n'y a aucun problème, ça va changer tout.
Apparemment, ils s'en sont rendus compte puisqu'ils font de l'argent, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette comédie musicale nominée donc 16 fois, 16 nominations ce soir aux Tony Awards qui auront lieu sur CBS pendant la nuit, heure française. Cérémonie, Laurent Vallière, qui sera nécessairement entaché par l'attaque qui a eu lieu cette nuit, la nuit passée à Orlando, en Floride, d'une discothèque gay, le Pulse, avec plus de 50 morts. Ça en fait sans doute l'une des plus, on dit même, le Monde dit très tout à l'heure, la plus grave attaque de ce type aux États-Unis. C'était notamment un club gay, mais c'était aussi un club latino. Les Tony Awards vont réagir comment?
Ils ont déjà annoncé que d'abord ils étaient, leur pensée allait aux familles, aux amis des personnes touchées. Ils ont déjà annoncé que la cérémonie de ce soir leur serait dédiée. Il est clair que Lin-Manuel Miranda, ce jeune homme qui a tout fait dans Hamilton,
et lui-même d'origine, l'auteur, la musique,
voilà, et d'origine,
l'acteur.
Voilà, et ses parents sont d'origine portoricaine. Oui, effectivement, savoir certainement, ils vont en parler forcément ce soir. Il est intéressant ce jeune homme. Vous allez parler de creative writing dans un instant. Tout à l'heure, vous avez passé une chanson qui s'appelle My Shot. Lui, il explique que cette chanson, qui est la première chanson de Alexander Hamilton, et dans les comédies musicales, la première chanson doit vraiment bien expliquer quel est le personnage. Il a expliqué qu'il lui a fallu un an pour écrire parfaitement uniquement cette chanson. Il a un parcours intéressant parce que lui, en fait, à 18 ans, il a commencé à écrire sa comédie musicale, une première comédie musicale, et il a fait partie d'une troupe de hip-hop qui improvisait. Et en fait, c'est un roi du hip-hop. Il a sur son compte Twitter, il passe son temps à tweeter. Il a toujours des mots très très forts. Et alors, il y a des rimes internes dans les paroles de Hamilton. C'est très sophistiqué. Moi, j'appellerais ça vraiment de la poésie. C'est ce qu'il a écrit pour Hamilton.
Merci infiniment, Laurent Vallière. Vous travaillez à France Musique et on termine cette séquence consacrée au spectacle de Hamilton avec de la musique, justement, ou plus précisément du freestyle. Les créateurs de la comédie musicale ont été invités par Barack Obama à la Maison Blanche. C'était le 14 mars dernier. Et les musiciens ont tout à coup improvisé un rap, un freestyle, dans le Rose Garden à partir de mots que leur donnait Barack Obama de manière spontanée, comme ça. Écoutez bien, à la fin, Barack Obama affirme même que la séquence va devenir virale et c'est en effet ce qui s'est passé.
There's some serious business right here.
Are we in the Rose Garden right now?
What's we are. Business? This is the Rose Garden right here. Yeah, it must be a little nerve-wracking. I hope I don't drop these cards.
You ready, guys?
You ready? We getting the cue?
All set.
All right. Drop the beat.
He's throwing up some words. I'm gonna say some freestyling that you never heard. Constitution, the POTUS. I'm freestyling, you know this. Obamacare, okay, I'm looking up because it was hopeless before you enacted that system. The Federalist Papers, Hamilton wrote the other 51 and greater. And Sonny and Bo is canine. It's insane, asinine. Oh my gosh, I'm freestyling down the line. NASA, I wanna see if we can get over to Mars and wrap more bars. I spit bars and leave a carbon footprint on it and lower my emissions. And this is Lin-Man freestyling in the Congress. This is transmission. I hope in Congress works to our agenda. Innovation's important. You really gotta send to yourself and create something. We need a new justice for the Supreme Court. In short, oh my gosh, this is my book report. And immigrants, we get the job done. This is so fun. POTUS is holding up the signs. I'm not done. It's the Oval Office. Oh my gosh, I can't believe I'm there. It's so much more intimidating than if it was square. Opportunity knocks and I can't stop. I'm here with the president and my pops. And yo, the mic drops.
How good is that? That's, you think that's going viral? That's going viral.
Yes, sir.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture en direct, 19h20. Notre émission sera consacrée pour l'essentiel ce soir au creative writing, c'est-à-dire au fond comment on apprend à écrire, si tant est que ce soit nécessaire pour devenir écrivain. Nous sommes avec Laure Limongi, écrivaine, professeure de création littéraire. Lionel Ruffel nous rejoindra tout à l'heure, il est également écrivain co-directeur du Master Création Littéraire de Paris 8. On aura une série d'entretiens qui ont été réalisés récemment à New York. Et puis avec nous, Alissa Rubin, chef du bureau du New York Times à Paris, grand reporter, qui a obtenu il y a quelques semaines le prix Pulitzer 2016. Alors vous venez d'obtenir ce prix, le plus prestigieux prix littéraire et journalistique américain, pour une série de reportages à propos des femmes en Afghanistan. Dans ces articles, vous leur donnez la parole, vous donnez une voix à ces femmes afghanes qui ont été victimes de viols, de harcèlement. Vous parlez aussi des crimes d'honneur qui autorisent un père, un mari ou un frère à tuer sa fille, sa femme ou sa sœur si elle a fait une faute entre guillemets morale. Et puis vous interrogez des femmes policières qui là en l'occurrence montrent une forme d'hypocrisie ou d'échec des Occidentaux qui ont voulu que des femmes soient recrutées dans la police, mais c'est évidemment extrêmement difficile pour elles. Comment est-ce que vous avez réussi à les faire parler, à les interroger sur ces sujets si privés?
Il y a besoin de quelques différentes techniques, mais premièrement on doit avoir une traductrice afghane qui peut mettre un peu à l'aise les femmes avec qui je parle. Mais aussi, j'ai fait les entretiens en profondeur pour comprendre un peu la totalité de la caractère des personnes de chaque femme, et je mets les questions sur sa famille, sur si elle a marié avec un cousin, ou combien enfants elle a, toutes les choses pour comprendre le monde, son monde.
Vous pouvez lire tous ces articles sur Twitter ou Facebook. On met les liens de vos articles. Et d'ailleurs, je vous félicite pour faire l'effort de parler en direct en français. Vous avez également signé un article, Alissa Rubin, un article célèbre, j'oserais dire tristement célèbre, qui décrit un accident d'hélicoptère en Irak. C'était en août 2014, hélicoptère dans lequel vous étiez, 4 personnes sont décédés dans cet accident et vous-même avez été grièvement blessé, rapatrié d'urgence aux États-Unis. Là, vous écrivez à la première personne.
Oui, parce que en général, je n'aime pas d'écrire dans la première personne, parce que je ne suis pas le centre de mes articles, c'est les autres. Mais en ce cas, l'histoire, c'est quelque chose que j'ai observé un peu, et je me sens obligée d'expliquer un peu les circonstances pour les réfugiés yazidis avec qui je suis été en hélicoptère.
Et c'est un hélicoptère humanitaire qui portait secours à des réfugiés et qui n'a pas réussi à décoller finalement, et il s'est crashé parce qu'il y avait trop de réfugiés à bord.
Oui, exactement. Le pilote était un homme avec beaucoup, beaucoup de sympathie pour les réfugiés yazidis, et il a essayé de prendre les plus possibles des yazidis dans l'hélicoptère. Ils sont toutes sur un massif très grand, Mont Sinjar, et ils sont trop là. L'hélicoptère était trop lourd, et il était premièrement, il a commencé à basculer et chuter pour s'écraser sur les rochers. Et voilà.
Alors revenons au sujet des articles que vous traitez. On peut considérer que c'est ce qu'on appelle souvent de la narrative non-fiction. On a appelé ça à d'autres époques du nouveau journalisme, pour reprendre une célèbre formule. Quelles sont les techniques? Est-ce qu'il y a une histoire qu'il faut raconter à partir des faits, et seulement des faits, avec plusieurs protagonistes réels qui peuvent dire finalement cette histoire à votre place?
C'est un peu difficile à dire. Pour moi, c'est plus d'entendre beaucoup de plusieurs narratifs de récits des différentes personnes, et après de faire un choix pour qui est le meilleur centre pour l'histoire, et de passer beaucoup de temps avec la personne dans les diverses circonstances pour faire le narratif.
On en suit aussi beaucoup. Vous avez suivi beaucoup de femmes, on le voit dans l'article sur les femmes policières. Oui. Et finalement, il y en a seulement 3 ou 4 qui sont centrales.
Exactement.
Vous avez eu besoin de tous ces personnages, entre guillemets, ces caractères, pour arriver à voir celui qui y parlait le plus. Et l'article commence d'ailleurs avec une femme policière qui est assassinée
parce qu'elle était policière et femme. Oui, et femme, oui, exactement.
Est-ce que vous avez suivi une formation en creative writing pour...
Pas du tout, malheureusement.
Vous étiez à Brown, c'est ça?
Oui, je suis un graduate de Brown.
En quelle discipline?
Les études de Renaissance et aussi de les langues classiques de latin.
Du latin, notamment. Et ensuite, vous avez fait un master, mais à Columbia, où on peut faire de la creative fiction, dans une fiction ou autre. Mais là, vous avez fait de l'histoire européenne.
L'histoire européenne, surtout l'histoire de l'Église catholique.
Quelles sont les formations en creative writing qui vous paraissent les plus connues, les plus...
Oh, ils ont beaucoup à Iowa, à une très, très fameuse.
Donc dans l'Iowa, l'université d'Iowa.
Oui, c'est le Iowa Fiction Program et aussi non-fiction. Mais maintenant, vraiment, vous avez dit correctement, ils sont multipliés et beaucoup de l'université ont les programmes. Aussi Bennington et Sarah Lawrence, tous les deux ont les bons programmes.
Ils sont très reconnus. Hein.
Oui, très
Quels sont, pour terminer peut-être, vos modèles en matière de ce qu'on appelle le narrative non-fiction, donc de journalisme écrit, d'histoire? Vous avez des auteurs que vous recommanderiez comme ça à nos auditeurs?
Oui, il y en a beaucoup. Il y a quelques personnes qui écrivent pour le New Yorker, comme George Packer, qui écrit aussi les livres sur la guerre. Moi, j'aime beaucoup aussi Martha Gellhorn, qui était l'amie de Ernest Hemingway. Elle a fait les très émouvant, très émotionnel, raconte pendant la guerre en Espagne civile et après la Deuxième Guerre mondiale, et elle a fait beaucoup sur sujet des civils, des personnes ordinaires.
Merci infiniment. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alissa Rubin, je rappelle que vous êtes le chef du bureau du New York Times à Paris, grand reporter, et que vous avez obtenu en avril le prix Pulitzer 2016. Salaï Lemoine est étudiante en creative writing à l'Université de Columbia, à New York. Elle explique ici ce qu'est, selon elle, un MFA ou un Master of Fine Arts et quel intérêt cela a pour un jeune écrivain en devenir de suivre ce type de cours.
Un MFA, c'est un Master's of Fine Arts, donc c'est un master qui dure à peu près 2 ans. C'est un master d'art, donc on a des MFAs en peinture, en film et en écriture. Les meilleurs sont Columbia, University of Michigan, University of Austin, UVA, University of Virginia, Cornell, Brown, NYU, et je peux continuer pendant assez longtemps.
Lorsqu'on est un écrivain, il y a finalement 2 solutions aux États-Unis. Ou bien on va dans un programme de MFA qui sont longs, qui coûtent cher. Ou alors on part à New York ou à San Francisco dans la vie artiste et on se débrouille. Quelle est la vraie bonne solution pour devenir écrivain aujourd'hui aux États-Unis?
Il n'y a pas de vraie bonne solution, mais le MFA nous donne une communauté d'écrivains et nous donne des professeurs qui sont tous écrivains ou éditeurs dans des maisons d'édition très connues et qui nous aident à retravailler un texte, à retravailler une idée. Donc j'ai vu souvent avec des amis qui sont écrivains qui ont aussi fait un MFA, j'ai vu que leur texte était vraiment beaucoup amélioré au fil des années à travers tout ce travail d'édition dans le MFA, en gardant leur voix, l'originalité de leur écriture, leur style.
À l'instant, donc, une étudiante qui décrivait sa propre présence dans les cours de Creative Writing. C'est avec nous Laure Limongi. Vous êtes écrivaine, professeure de création littéraire. Bonsoir.
Bonsoir
madame. Comment est-ce que vous définiriez, pour en ce qui vous concerne, la Creative Writing, et comment est-ce que cette définition est comprise en France?
Alors en fait, il faut tout de suite préciser que c'est très nouveau ici, vraiment, l'enseignement de la création littéraire, en tout cas sous forme de master, puisqu'avant, surtout dans les écoles d'art, ça pouvait être le fait de certains professeurs qui enseignaient la création littéraire. Alors en fait, ça, c'est une définition qui fait un petit peu, ça fait un petit peu peur en France, parce que justement, voilà, aux États-Unis, ça dure depuis une centaine d'années, et chez nous, c'est 2012. Donc on est encore vraiment dans les prémices de la création littéraire en France. Je pense que ce qui fait aussi peur, c'est quand on parle d'apprendre à écrire, puisque l'idée, là, je trouve que l'entretien qu'on vient d'entendre de Salaï Lemoine est très juste quand elle parle de communauté d'écrivains. C'est-à-dire que, pour nous, au Master de création littéraire du Havre, l'idée, c'est de créer un environnement propice à l'émergence de l'écriture de chacun et de la voix. Elle parle aussi de la voix littéraire de chacun, et surtout pas d'être dans une idée de formatage, de recette. Parce que là, j'ai une mauvaise nouvelle. Écrire, ça ne s'apprend pas avec des recettes. C'est vraiment une histoire d'exigence, de parcours, de chemin. Et un master de création littéraire est sans doute un moment d'exception dans ce chemin qui est long et un moment privilégié. Donc on s'attache effectivement à, avec des écrivains, des éditeurs, des professeurs de l'université et de l'école d'art, de créer cet environnement privilégié.
Alors, de nombreux noms d'écrivains américains, je pense à Joyce Carol Oates, Jonathan Safran Foer, Philip Rose qui a été dans l'université de l'Iowa, dans le programme dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi des Français, je pense à Catherine Pancol par exemple, qui a été à Columbia, au programme de Creative Writings de l'université de Columbia à New York. Est-ce que, si ça ne s'apprend pas, est-ce que malgré tout, ça devient de plus en plus nécessaire dans un certain nombre de cas d'avoir ce type de diplôme, selon vous ?
Je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se consacrer à l'écriture pendant pas mal de temps. Et ce qui est de plus en plus difficile, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu par rapport au, quand j'ai travaillé dans l'édition également, et je voyais par rapport aux jeunes gens qui arrivaient, qui étaient extrêmement enthousiastes vis-à-vis de la création et de l'écriture, et qui avaient plus trop les moyens par rapport aux anciennes générations en amont, puisque maintenant, c'est vrai que tout ce qui est humanité, on n'apprend plus des poésies par cœur, on est moins, on est moins confronté, on est moins en amitié avec les œuvres dans son plus jeune temps. Et c'est après, finalement, quand on veut s'adonner à l'écriture, quand on a une exigence d'écrivain, qu'on peut se retrouver engagé dans ce genre de formation.
D'où vient la relative difficulté et parfois même les préjugés qui sont contre la creative writing en France ? Vous en avez déjà évoqué, mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait qu'on est si réservé vis-à-vis de ce type d'enseignement ?
Alors moi, au début, ça m'a pas mal étonnée, parce qu'en fait, si on compare aux études d'art, par exemple, l'art en France, ça fait longtemps qu'il y a des écoles d'art, ou les ancêtres des écoles d'art, c'est depuis le 18e quand même, donc je vois pas ce qui différencie forcément terriblement l'écriture de la sculpture, de la peinture. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a une sorte de mythe de l'écrivain qui est très très puissante, on le voit hein, tout le temps, qui est très ancienne, et quand on ose dire qu'un écrivain travaille, souvent c'est pas très très bien vu. Ça doit rester quelque chose d'un petit peu mystérieux. Or un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit en fait tous les jours, qui travaille, qui refait, qui peut passer, comme on le disait tout à l'heure pour Hamilton, un an sur une chanson poésie pour en être satisfait.
Donc du coup, ces formations, c'est d'abord vous mettre le pied à l'étrier, vous faire travailler, et la communauté des gens qui vont travailler avec vous.
Tout à fait. Et ce que je dois dire, puisque c'est assez récent, et que moi-même je suis dans ces cas-là, les enseignants écrivains et les autres, d'ailleurs tous les enseignants, sont vraiment dans l'aventure. C'est-à-dire qu'on a débarqué là-dedans, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et ce que je dois dire, c'est que les étudiants qu'on a, n'écoutez pas les étudiants, ça va vous donner la grosse tête. Les étudiants qu'on a me surprennent toujours par leur implication. Ils sont vraiment, mais
dans oui, ce type de programme.
Ah oui, mais avec vraiment une passion, ils écrivent tout le temps et ils font des progrès colossaux.
Alors on parle souvent de creative writing, et on a dit tout à l'heure, on a parlé de narrative non-fiction, on a parlé de littérature, de fiction, etc. Au fond, c'est quand même ce sont deux mondes très différents, que le monde de la fiction d'une part et celui de la non-fiction d'autre part.
Alors c'est vrai que, aux États-Unis, la narrative non-fiction, c'est vraiment quelque chose en soi. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à pas trop, quand on en parle, on ne sait pas trop encore faire cette différence.
Ce serait quoi concrètement ? C'est des faits, donc c'est du journalisme réel, mais avec une histoire
oui,
réelle,
c'est s'inspirer de...
des personnages, parfois des dialogues. Mais l'idée, c'est de continuer à garder ces faits, mais de les transcrire autour d'un article qui raconte cette histoire.
Tout à fait. Alors en France, c'est vrai que... On ne l'a pas encore nommé, mais il y a pas mal d'écrivains qu'on connaît qui s'adonnent à ça. On peut parler d'Emmanuel Carrère, qui est sous la forme du roman dans L'Adversaire ou dans Limonov, finalement.
Florence voilà. Aubenas dans
Tout
Le Quai de Westrian.
Javier Cercas avec L'Imposteur. Et puis des maisons d'édition, il y a Adrien Bosque qui avait publié Constellation et qui a une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Sous-Sol, qui sont consacrées donc à la version française ou à des traductions d'ailleurs de narrative non-fiction. Ou alors les éditions Plein Jour aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un espace émergent. Moi-même, dans mon dernier livre, finalement, c'est Anomalie des ondes profondes du cerveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Publié chez Grasset.
Oui, chez Grasset. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, on sent qu'il y a vraiment, en ce moment, beaucoup d'attention pour la narrative non-fiction.
C'est un livre en même temps sur la migraine.
Tout à fait.
On peut citer quelques auteurs de narrative non-fiction, même si le terme est peut-être un peu anachronique, puisqu'on parlait aussi de nouveau journalisme à une autre époque. Et avant ça, le père de tout ça, c'est notamment George Orwell, avec Down and Out in Paris and London, sa grande enquête sur la pauvreté. 1936, plus un peu après, en 1938, l'hommage à la Catalogne, là où on a à la première personne l'histoire de la guerre civile en Espagne qui est racontée, ses combats durant la guerre d'Espagne. D'autres auteurs, bien sûr, Truman Capote, et avec 200 francs en 1966, où Capote réalise des centaines d'interviews pour retracer l'histoire d'un quadruple meurtre qui a eu lieu en 1959. Et à la lecture, ça ressemble à un roman policier, mais en vérité, les faits sont exacts et réels. Truman Capote a recueilli tellement d'informations à travers ses recherches qu'il a pu reconstituer l'histoire dans ses moindres détails. Et puis d'autres auteurs fameux, bien sûr Tom Wolfe, qui est un peu le père du nouveau journalisme, avec notamment un article par exemple, The Last American Hero is Junior Johnson, yes. Norman Mailer, très connu pour son article Superman Comes to the Supermarket, ou encore Guettalese, qui a publié ce célèbre article Frank Sinatra as a Cold and Other Essays. En gros, c'est un Frank Sinatra qui a, comme ça arrive à tout le monde, un rhume, mais comme c'est Frank Sinatra, ça a de grandes conséquences sur sa voix. Toutes ces références de ces articles, vous pouvez les retrouver sur notre compte Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur notre page France Culture, ou encore sur un article où on a rassemblé toutes ces références sur Medium. Henry Finder est directeur de la rédaction du New Yorker. Je l'ai interviewé le mois dernier à New York, dans les nouveaux locaux du journal, situés dans la Freedom Tower, la nouvelle tour du World Trade Center 1. Il explique ce que sont les creative writings et pourquoi les écrivains doivent suivre ce type de formation ou pas.
Bonjour.
We are on the, Bonjour, nous sommes au 44e étage du World Trade Center, au cœur de l'Empire Condé Nast. Je suis le directeur de la rédaction du magazine New Yorker.
On se demande souvent comment on devient un écrivain. Est-ce que vous-même qui publiez de nombreux écrivains en fiction et en non-fiction, est-ce que vous pensez qu'il faut faire une école? Ou est-ce qu'au contraire on apprend à devenir écrivain dans la rue, en vivant sa vie?
I think writing programs do work.
Je pense que les programmes d'écriture littéraire conviennent à certaines personnes parce qu'ils rentrent en contact avec leur père, ils peuvent échanger avec eux. Et je crois aussi que cela peut permettre de créer un réseau. Vous avez un professeur qui va aimer votre travail et ce professeur a peut-être des contacts dans le monde de l'édition et il peut vous aider d'une façon tout à fait directe. Ou vous avez tissé des liens avec certains de vos collègues, des personnes qui étaient présentes au séminaire et certaines de ces personnes peuvent décrocher un poste dans des magazines littéraires, des maisons d'édition. Et vous ne vous sentez plus isolé, marginal. Vous avez des liens avec le milieu. Et puis aussi, il y a cette possibilité, cette excuse de devoir s'entraîner, comme lorsque vous vous lancez dans une carrière musicale et vous jouez du piano. Et cela peut vous aider à vous lancer. Et puis tout simplement aussi avoir une date butoir, cela peut vous aider.
Est-ce que vous avez des programmes, des MFA, des Creative Writings programmes à recommander que vous pensez particulièrement intéressants, originaux?
Certains d'entre eux sont très connus, comme le Iowa Writers Workshop. Il y a le programme de l'université de NYU, de l'université de Columbia, du Collège Hunter, qui sont très bien cotés, par exemple. Il y a de très bons programmes à Brooklyn, à Boston. Si vous étudiez et regardez ce qui se passe dans ces programmes, vous devez comprendre que ce sont des structures de sociabilisation. C'est aussi l'opportunité d'avoir un espace qui vous est offert. Un espace, par exemple une salle de classe, et puis l'obligation de lire, de réfléchir et de répondre.
On a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing as long as I hold string. I'd be
Vous aurez reconnu sans doute Ella Fitzgerald dans I've Got the World on a String. Extrait, bien sûr, c'est un titre autonome qui a eu sa vie par lui-même, mais c'est aussi extrait de la bande originale du film On the Road de Victor Salles, d'après le livre, bien sûr, de Jack Kerouac. Jack Kerouac et On the Road qui seront au cœur d'une exposition intitulée Beat Generation. Ça commence au Centre Pompidou à partir du 22 juin prochain, donc semaine prochaine. Ça durera jusqu'au 1er octobre. Grande exposition, une des premières au fond en France autour de la Beat Generation. La Beat Generation, c'est à la fois la dérive, le voyage, partir de l'Est vers l'Ouest, même si au début du livre, le héros Sal Paradise se trompe et il se retrouve au Nord alors qu'il pensait partir vers l'Ouest. C'est aussi bien sûr les filles, la drogue pour une part, le jazz, en l'occurrence le bebop, et puis cette dérive. Un écrivain qui se cherche, il dira d'ailleurs « I was a writer and needed new experiences ». J'avais besoin de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Et il part avec Neil Cassady, William Burroughs et toute la Beat Generation. Exposition donc qu'on retrouvera au Centre Georges Pompidou à partir du 22 juin.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Alors on parlait à l'instant de Kerouac et On the Road, et on a là un débat finalement classique hein, sur la littérature américaine, à savoir, faut-il pour devenir un écrivain suivre des cours d'écriture ou simplement partir sur la route? Sur la route, c'est-à-dire choisir l'aventure plutôt que l'université, vivre la vie et ses aventures, un peu comme Don Quichotte qui au fond n'est animé que par cette véritable motivation qui est l'aventure, même si peut-être que Don Quichotte, comme le dit Borges, est en réalité un écrivain qui n'a jamais quitté sa librairie, qui sait. En tout cas, j'ai posé cette question à Tina Brown. Elle fut la patronne de Vanity Fair, puis la directrice du New Yorker. Être écrivain, est-ce que cela s'enseigne? Tina Brown.
Non, je préfère un auteur qui a vécu. Cela vous révèle, vous aiguise, vous donne matière à écrire. Je ne crois pas qu'un programme d'écriture peut vous offrir cela. Rares sont les auteurs que je publie qui ont suivi un programme d'écriture. Alors, certains sont d'excellents étudiants, brillants, viennent de très bonnes universités, de très bonnes écoles. Mais la plupart des écrivains avec lesquels je collabore ont une voix unique et quelque chose à dire. Ils ont vécu une vie dont ils peuvent parler, ils connaissent le monde et ils sont liés au monde. Je crois que les gens ne comprennent pas à quel point le matériel pour écrire est essentiel. Il doit être frais, actuel et apporter de la nouveauté.
À l'instant, Tina Brown, ancienne patronne de Vanity Fair, puis patronne du New Yorker, interrogée il y a quelques jours, quelques semaines, à New York. Alors Tina Brown évoquait, Alissa Rubin, Laure Limongi, évoquait le New Yorker comme matrice, ça fut évidemment son journal puisqu'elle l'a dirigé. Ça reste une matrice très forte, Alissa Rubin, pour vous, l'écriture, vous qui êtes au New York Times malgré tout, l'écriture du New Yorker?
Oui, absolument, parce que c'est littéraire, mais aussi journalistique. Il y a beaucoup d'articles très longs qui essaient de plonger dans la profondeur, dans la complexité de tous les topics.
Et puis c'est aussi un journal qui publie de la fiction, ce qui n'est pas si commun,
exactement.
De longs articles. Alors beaucoup de grands écrivains sont
et
apparus
aussi
au New York.
De la poésie, c'est vraiment presque unique. Atlantique aussi faire ça, mais l'histoire de New York, c'est un part du 20e siècle.
Vous avez cité des auteurs comme George Packer, par exemple. On peut citer aussi Ken Oletta sur les médias. Journalisme de qualité, David Remnick ou Guétalès, dont l'enquête récente a fait beaucoup de bruit puisqu'il a raconté une histoire qu'il suit depuis 30 ans, hein, comme quoi quand on dit il faut du temps pour faire un article, bien lui il a fallu 30 ans, enquête qui a frôlé d'ailleurs un certain voyeurisme puisque Guétalès racontait qu'il avait assisté à un meurtre et qu'il qu'il avait choisi de ne pas dénoncer à la police. Alors, Laure Limongi, en France, on est un peu loin de tout ça. Vous enseignez au Havre, notamment la creative writing, creative fiction, non-fiction. Quels sont les auteurs qu'on mobilise dans ce type de formation et où sont ces formations en France?
Alors déjà, je voudrais dire que je suis pas d'accord avec Tina Brown dans la mesure où en fait, c'est peut-être une différence États-Unis-France d'ailleurs, hein, donc je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où il n'y a pas d'incompatibilité ici entre suivre une formation de creative writing telle qu'elle existe aujourd'hui et prendre la route. Je vous assure qu'aller au Havre pour bosser avec moi, c'est vraiment prendre la route. Et voilà, la différence.
Le nouveau Kerouac, ce sera partir de Paris vers le Havre.
Mais totalement.
On the road.
Fait beau plusieurs fois par jour en plus. Mais en fait, la différence, je pense, c'est aussi que en France, évidemment, les formations n'ont pas le même prix. C'est-à-dire que c'est très différent. Ça coûte le prix d'une inscription. Alors, c'est entre 200 et 250, je ne sais plus très bien, par an.
Hein, alors, voilà, ça peut être 25 000, 30 000 dollars aux États-Unis, surtout au niveau master, pour souvent 2 ou 3 ans, ce qui est un investissement
considérable. C'est même par année, ces prix-là.
Oui, donc, par année.
Voilà, donc, c'est très différent. Disons qu'on a à la fois, on essaie d'avoir totalement la même exigence du point de vue de l'enseignement, mais ce n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Ce qui fait que, là, par exemple, on est allé à Rome avec mes étudiants, justement, pour pouvoir voilà, qu'ils se confrontent à un autre environnement, etc., etc. Alors, pour parler rapidement du contenu, ce sont des séminaires, des cours, des ateliers qui sont donnés majoritairement par des écrivains.
Des écrivains qui sont recrutés par l'université, ça marche,
oui.
Ça ?
Enfin, qui sont recrutés. Non, en fait, c'est tout l'intérêt, c'est que nous, on est entre une université et une école d'art. Nous sommes cohabilités. Donc, traditionnellement, les artistes et les écrivains ont leur place dans les écoles d'art. Donc, c'est ce qui nous permet de les faire intervenir. Mais l'originalité du Havre, c'est que les étudiants peuvent suivre à la fois des cours à l'école d'art, donc avec beaucoup d'écrivains, mais aussi des éditeurs, beaucoup d'intervenants
très
divers.
Très pratique, du coup, très pratique.
Oui, enfin, disons que l'idée, c'est aussi de les mettre, de leur montrer qu'être écrivain, c'est aussi avoir une existence sociale dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est
d'autres, important. D'autres programmes importants en France aujourd'hui?
Oui, alors il y a eu. En fait, on a été lancé en 2012 en même temps que Toulouse,
donc,
qui s'appelle Métier
Havre,
de l'écriture,
Havre,
voilà, le Havre.
Toulouse.
Paris 8 l'année d'après. Cergy est en train de commencer quelque chose. Et historiquement, c'est l'université d'Aix-en-Provence, donc Aix-Marseille. Qui avait lancé les premiers ateliers d'écriture dans les années 70, qui a un DU en création littéraire et cinématographique et qui a une thèse de pratique et théorie de la création artistique et littéraire qui est dirigée par Claude Pérez.
Le MFA est actuellement Master of Fine Arts, diplôme des Beaux-Arts, selon la traduction française, donc diplôme des Beaux-Arts, est désormais un terme générique qui englobe toutes les formations artistiques, notamment aux États-Unis, y compris celles d'écrivain. Jonathan Karp est l'un des éditeurs vedettes aux États-Unis. Il a été interviewé le mois dernier à New York pour France Culture.
I'm Jonathan Karp.
Je suis Jonathan Karp, éditeur de Simon Schuster. C'est vrai que lorsqu'un auteur me présente un diplôme national des Beaux-Arts, cela m'impressionne toujours, mais ce n'est pas un facteur déterminant à l'heure de publier un livre. C'est bien lorsque j'entends qu'une personne a étudié l'écriture, a étudié le monde des écrivains au sein d'une communauté, eh bien je crois que cela forme sa sensibilité. Donc c'est quelqu'un qui sera un auteur sophistiqué, sensible à la littérature, mais il y a toujours important de trouver quelque chose qui se révèle au cours des pages, une vie qui prend. Vous sentez quelque chose et à mon sens, au final, l'expérience concrète est importante. Il y a un élément important dans cette voix qui va attirer votre attention. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre à l'université. Peut-être qu'étudier vous permet d'exprimer ce sentiment et de le passer à l'écrit d'une manière plus réussie. Mais au final, il s'agit de trouver la singularité de l'écrivain. Et généralement, elle vient, à mon sens, de l'expérience vécue. Ou peut-être c'est une vue originale du monde qui est importante.
Étant donné le grand nombre d'écrivains aux États-Unis et plus encore le grand nombre d'écrivains en devenir, est-ce que ce n'est pas une forme aussi de présélection avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir?
Well, I think what's great about MFA programs is that they've now...
Ce que je trouve fantastique dans ces programmes, c'est qu'ils sont devenus presque un monde en soi. Un monde qui s'autosuffit, une communauté qui s'entraide. Alors peut-être qu'en passant par ces programmes, vous ne deviendrez pas un auteur qui vend énormément de livres. Mais si vous appartenez à ce monde, vous pouvez enseigner, travailler avec d'autres étudiants, écrire
écrire des livres pendant votre temps libre et vous appartenez à une culture littéraire, à une communauté littéraire. Donc je pense qu'il est très bon que de nombreux étudiants s'inscrivent à ces programmes. Cela donne plus de travail à des professeurs qui pourront continuer à écrire.
À l'instant, Jonathan Karp, éditeur de Simon & Schuster, le patron de Simon & Schuster aux États-Unis. France Culture en direct, 19h50. Cette émission ce soir est consacrée au creative writing, ou comment on devient écrivain. On apprend éventuellement à être écrivain. Et parfois, la fiction et la non-fiction demeurent des territoires bien distincts. Certains théoriciens littéraires, d'ailleurs, militent pour préserver cette frontière. C'est le cas, par exemple, de Françoise Lavocat dans son nouveau livre paru tout récemment, Faits et fiction pour une frontière, publié au Seuil. Et où elle milite justement pour la distinction très claire entre les faits et la fiction. Reste que bien des évolutions récentes de la littérature comme de la non-fiction tendent à mêler en réalité les genres. C'est le cas des nouveaux formats de séries télévisées, de documentaires. On pense aux docu-fictions, on pense aux mockumentaries. Les podcasts aussi, pensons à Sarah Koenig, fameux podcast serial pour The American Life, où la journaliste mène une enquête sur un meurtre 15 ans après les faits tout en racontant l'histoire à mesure que sa recherche se déroule. On peut penser aussi au virtual reality narrative, c'est un genre intéressant, au verbatim de France 2 par exemple, là on est entre la fiction et la réalité, le documentaire mêle des images réelles et des scènes jouées par des comédiens, ou encore la réflexion qui a été menée par Pierre Rosanvallon et la collection Raconter la vie au Seuil, vous avez des écrivains qui utilisent des faits pour raconter ce qui se passe en France et notamment le livre de présentation du projet s'appelle Le Parlement des Invisibles qui a été publié au Seuil en 2014. Michael Denoni fut longtemps l'un des principaux éditeurs de Saint Martin Press à New York. Aujourd'hui, à la retraite, je lui ai demandé comment il voyait, sur la durée, un peu rétrospectivement, cette tendance à la professionnalisation du métier d'écrivain. Michael Denoni.
Il semble qu'il existe un mouvement qui a tendance à professionnaliser le métier d'écrivain. Et c'est quelque chose qui me fascine. Évidemment, je crois qu'il est très important pour les écrivains de travailler en groupe, de lire l'écriture et la production d'autres et d'être lu à leur tour pour être critiqué. Et en ce sens, je pense que les programmes d'écriture sont très positifs. Mais je crois qu'ils finissent par créer un style totalement homogène. Et puis, cette idée selon laquelle on peut professionnaliser l'écriture est quelque chose qui me surprend. On voyait un écrivain comme Orwell qui s'était rendu à Paris pour écrire son livre, puis était parti en Catalogne. À l'heure actuelle, l'écrivain en devenir va à l'université de Columbia, va à l'université, va faire un master et ils ne sont jamais sortis de ce monde académique. Ils n'ont jamais vraiment vécu. Et je crois que cela nous mène à une atmosphère très confinée. Également, les choses ont beaucoup changé ces 30 dernières années. Il est très difficile d'être publié à l'heure actuelle. Et c'est également très complexe. Il faut passer par un rituel. Cela peut vous prendre des années, voire 3-4 ans. Et ceci après avoir finalisé le livre. Il faut trouver un agent, une maison d'édition.
Est-ce que vous diriez qu'au fur et à mesure que ces programmes se sont développés, la littérature est devenue meilleure aux États-Unis ?
Non, je ne pourrais pas dire cela. Je ne peux pas dire que c'est pire, mais je ne crois pas que ces programmes ont rendu l'écriture meilleure.
France Culture, 19h54, on touche peu à peu à la fin de cette émission. Il y a comme un paradoxe ce soir, c'est que tous les écrivains qu'on a interviewés, les éditeurs, les journalistes américains disent finalement que ça ne sert à rien, la creative writing, et ce sont les Français, dont vous, pour une part, Laure Limongi, qui défendaient la creative writing comme si c'était le monde à l'envers, je pourrais presque
dire. En fait, je pense qu'on a une vision, là, à chaque fois, ce qui m'a un petit peu choqué, ce que j'ai noté, c'est qu'ils disent « Ah oui, les gens n'ont pas de vie », enfin, je vous assure que mes étudiants ont beaucoup de, enfin, vivent beaucoup, hein. Donc,
oui, puisqu'ils partent au Havre on the road.
Oui, mais hein. Ils partent au Havre, ils partent, ils partent pas, enfin, ils voyagent beaucoup, justement, enfin, chacun, ils ont tous des univers très, très différents, mais ils vont se confronter, justement, ils vont vers leur matière. Donc, je pense que c'est aussi deux réalités académiques différentes.
Alors, sur ce sujet, peut-être vous allez trouver du soutien avec Lionel Ruffel. Pour terminer cette émission, il est avec nous par téléphone. Il est écrivain, co-directeur du Master Création Littéraire de l'Université Paris 8. Bonsoir, Lionel Ruffel.
Bonsoir.
Vous avez publié Brouhaha aux éditions Verdier. Je le dis, vous dirigez un master. Vous êtes en direct par téléphone depuis Berlin. À l'Université Paris 8, vous dirigez ce master de création littéraire. Comment est-ce qu'on apprend à écrire en France et à Paris 8? Les enseignants, ce sont des universitaires, des écrivains. Qu'est-ce que vous privilégiez?
Nous, il faut dire qu'à Paris 8, on a cette chance d'avoir un grand nombre d'enseignants-chercheurs qui sont maîtres de conférences, qui étaient déjà maîtres de conférences, qui sont écrivains, comme Olivier Rosenthal, Sylvain Patieu, Vincent Message. Donc, on n'a pas eu tellement ce problème. On a une équipe pédagogique assez forte de 7 ou 8 écrivains qui étaient déjà maîtres de conférences, avaient une thèse et donc étaient habilités à enseigner. Donc,
parce que sinon, c'est pas possible ce... quand on est écrivain, on n'arrive pas à intégrer l'université ou en tout cas être payé au-delà de quelques euros de l'heure.
Alors, il y a deux structures en fait. Il y a la structure classique de l'enseignement et de la recherche à l'université en France. Il faut une thèse pour être maître de conférence, une habilitation pour être professeur. Donc là, cette structure est relativement rigide, mais si je peux y revenir dans une seconde, elle est en train de s'assouplir. Après, il y a des dispositifs plus souples qu'on a pratiqués, comme par exemple écrivain en résidence. On a eu Maïlis de Kerangal qui a été écrivain en résidence pendant un an chez nous, mais elle travaillait sur d'autres dispositifs que la maquette d'enseignement classique sur laquelle on travaille. Cela dit, les choses changent beaucoup. Je dois dire par ailleurs que, évidemment, j'apporte tout mon soutien à Laure. J'ai dit mon gif, je suis entièrement...
Voilà, vous êtes deux dans le camp de ceux qui ont défendu la creative writing ce soir.
Absolument, mais
en direct.
Les universités américaines sont des isolats et des îles fermées sur elles-mêmes et qu'on y rencontre peu le monde. Hein. Donc, venez à Paris 8, venez au Havre, le monde est bien présent. Bon.
On va se quitter, pardon, parce que nous sommes un peu en retard. Mais en tout cas, on a eu deux sons de cloche français, avec vous d'ailleurs, Laure Limongier, longuement, avec Alissa Rubin pour le New York Times. Merci à vous deux d'avoir été en studio en direct. Et puis, donc, Lionel Ruffel était par téléphone. Et on a choisi ce soir de se quitter avec un groupe américain, Local Natives, un groupe d'indie gay-friendly rock dont le nouveau single s'intitule Villainy, en anglais, en hommage ce soir aux 50 personnes assassinées cette nuit au Pulse, donc ce club gay d'Orlando en Floride. On a choisi de passer ce titre. Villainy, au fond, le mot signifie une action vicieuse et c'est typiquement ce qu'il s'est passé. Local Natives, donc indie rock des États-Unis. On en reste là pour ce soir. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cette émission, les articles de référence sur le creative writing, la liste des formations, des textes clés et de nombreux liens internet, tout ça sur la page web de cette émission, sur le site Medium ainsi que sur Twitter au mot-clé Soft Power. Merci infiniment à Alissa Rubin, Laure Limongier, et merci à mon confrère de France Musique, Laurent Vallière, pour sa description du spectacle Hamilton. Toutes les interviews que vous avez entendues ce soir ont été réalisées à New York pour France Culture en mai dernier et ont été traduites par Paloma Goulemot. Dimanche prochain, nous parlerons du futur de la musique classique avec le critique Alex Ross, ainsi que de la langue française en guerre, justement contre les anglicismes. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman et David Lavaux à la régie Clément Daté. Une émission réalisée ce soir par Perret Legras. Demain, dans les matins de France Culture, Guillaume Erner reçoit l'économiste Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. Bonne soirée à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.